Le chemin de traverse de la recherche. Une série d'émissions proposées par l'UMR Titéar, Université Grenoble-Alpes.
Bonjour à vous tous et bonjour à toi, chère Océane. Et bienvenue en ce froid mois de novembre. Nous sommes au Québec, plus particulièrement à Montréal, et il fait déjà nuit dehors. Dans cette ambiance digne d'un film d'Halloween, nous avons concocté pour vous ce soir une émission intitulée « Lignes parallèles, les risques du militantisme dans la recherche ». Et nous sommes dans l'émission « Les chemins de traverse de la recherche » proposée par mon laboratoire de rattachement, l'UMR Littéar. Pour commencer, je me nomme Cassandre Huchon, je suis doctorante à l'UMR Littéar, donc à l'Université Grenoble-Alpes, et au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, à l'Université de Montréal. Il se peut parfois que je dise dans ma hâte, que, enfin je parlerai en fait de l'UDEM et de l'UGA, parce que c'est plus simple pour moi que ces longs noms d'université. Je vous prie de me pardonner d'avance. Je travaille dans le cadre de mes recherches sur les carnets d'écriture de Marie Cardinal qui sont conservés aux archives ici à Montréal. Puis Marie Cardinal, c'est une autrice franco-québécoise d'origine pied-noir qui écrit en fait en plein milieu de la deuxième vague dans les années 1960-70 et qui écrit sur des sujets considérés comme tabous en soi, comme le corps féminin, la névrose, les menstrues, tout ce genre de choses. Puis moi, je m'intéresse particulièrement dans ces carnets d'écriture aux enjeux de réception et de création qui ont rapport à son identité d'autrice. En soi, la manière dont elle est perçue par la critique comme une autrice, donc comme une femme qui se permet d'écrire sur des sujets tabous, et dans sa création, la manière dont elle-même aborde le féminin et considère son expérience en tant que femme. Donc mon expérience à l'UGA, ça a d'abord été ça, en fait, ma porte d'entrée. C'est pas nécessairement le genre en tant que tel dont on va parler, les études féministes en général. Moi, c'était plutôt le travail sur les archives qu'on appelle, en littérature du moins, la génétique littéraire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis rattachée au laboratoire Charnière, qui travaille sur les questions de génétique, donc littéraire, et de générique. Donc en soi, comment une œuvre devient ou est rattachée au genre du roman, de la poésie, etc. Et les corpus de mon laboratoire sont plutôt 19e-istes. Et moi, je travaille beaucoup sur les textes du 20e siècle, les textes féministes du 20e siècle, puisque Marie Cardinal, encore une fois, elle écrit à partir des années 60 en France, puis elle se déplace au Québec, on en parlera après, dans les années 80. Puis, donc ça justifie en fait mon déplacement et ma cotutelle au Québec, puisque les archives sont à Montréal et que j'ai un intérêt particulier aussi à venir travailler au Québec. Tout ça pour dire en soi que de base, le rapport aux études féministes et au genre, qui va nous intéresser donc dans cette émission avec Océane, ça n'a pas été prévu tout à fait dans mes affiliations en France. J'ai dû le développer en dehors de mon département et des intérêts spécifiques à mon laboratoire. Mais j'aimerais quand même souligner que, en dehors des espaces de recherche dédiés aux études féministes, puisqu'il existe des départements en France qui sont spécifiques là-dedans, il existe des occasions en fait de s'interroger sur le genre et sur les femmes. Par exemple, au sein de l'UMR Littéar, moi j'avais accès donc à ma directrice de recherche forcément, Madame Mariette, que je salue, et qui est considérée dans cette université comme une spécialiste de l'écriture des femmes, puisqu'elle s'intéresse à George Sand dans le cadre de son travail sur Stendhal. Et aussi, c'est elle qui dirigeait maintenant. Malheureusement c'est au passé, mais c'est elle qui dirigeait et qui prenait en charge un séminaire qui a maintenant changé de nom, mais j'ai plus réussi à retrouver la nomenclature exacte. Mais son titre d'alors, à l'époque où moi j'ai commencé mon doctorat, c'était « Femme d'hier, femme d'aujourd'hui », et ça s'intéressait justement à un matrimoine, c'est-à-dire la filiation entre une autrice d'alors et une autrice d'aujourd'hui, dans un dialogue, ma foi, très intéressant. Puis donc, on parlera du Québec plus tard, mais Océane, je te laisse te présenter. À nos auditeurs.
Bah, bonjour Cassie, merci pour l'invitation. Moi c'est Océane, du coup je suis actuellement en train de finir ma maîtrise en communication et en études féministes à l'Université du Québec à Montréal, donc je vais aussi utiliser l'acronyme UQAM pour plus de facilité. Actuellement je suis rattachée à trois laboratoires, donc le laboratoire sur la communication numérique, le Lab CMO, l'IREF, donc l'Institut de recherche en études féministes, et le RECEF qui est le réseau québécois en études féministes, donc je suis très centralisée sur le Québec en ce moment. Mais comme vous pourrez l'entendre à mon accent, je ne suis pas québécoise, mais je viens en réalité de Belgique. Donc j'ai commencé mon parcours universitaire à Bruxelles avec un an d'université en littérature. Puis vu que je n'étais pas très à l'aise avec le système universitaire pédagogique belge, et que de toute façon le Québec me faisait rêver depuis pas mal d'années, je suis partie à l'Université de Montréal, où j'ai fait un baccalauréat en littérature anglaise et française, donc c'était bidisciplinaire. Puis j'ai continué à la maîtrise à l'UQAM en communication. Je ne voulais plus être dans le passé, en fait. C'était un petit peu le sentiment que j'avais en quittant la littérature, bien que je suis totalement convaincue de la nécessité des études littéraires. J'avais besoin de numérique, j'avais besoin d'ordinateur et de réseau. Et c'est pour ça que mon sujet de maîtrise actuellement, c'est les incels, donc cette communauté d'hommes anti-féministes qui est principalement en ligne, mais dont on entend parler hors ligne lorsqu'ils font des tueries, par exemple. Ça leur arrive un petit peu trop souvent. Et je commence au doctorat en janvier, et là je me concentrerai davantage sur les femmes politiques et leur rapport au réseau, et notamment le traitement médiatique dont elles sont souvent victimes, qui est un traitement médiatique qui va les discréditer assez régulièrement. Puis là je fais une comparaison France-Québec, donc peut-être une co-tutelle aussi à la clé, je ne sais pas, très inspirée par le parcours de Cassie dans cette perspective-là.
Ben, merci beaucoup, en tout cas je suis très touchée de t'avoir inspirée dans ce parcours et dans cette misère de co-tutelle, hein, parce que c'est quand même un labyrinthe administratif, vous pourrez peut-être l'imaginer si vous y êtes déjà, et puis vous pouvez l'envisager, hein, les co-tutelles c'est vraiment un avantage académique. Maintenant que j'ai fait ma publicité pour les co-tutelles...
Qu'est-ce qu'une co-tutelle, peut-être expliquer pour les personnes
qui... Ah ouais, peut-être. Une co-tutelle, c'est un accord de recherche ou un accord académique entre deux universités, donc il faut déjà qu'il y ait des accords préalables, ou vous pouvez les créer. Moi, par exemple, je suis en co-tutelle, donc j'ai fait un accord avec... Quand je parle d'accord, ça implique une convention, donc une sorte de contrat signé par les deux universités, d'où le labyrinthe administratif. Puis moi, j'ai une co-tutelle établie entre l'Université de Grenoble et l'Université de Montréal. Puis ça s'est fait, j'en ai pas parlé, mais par ma directrice de thèse en fait, au Québec, donc au CRIC, Madame Stéphanie Bernier, que je salue également chaleureusement, qui, en fait, quand je l'ai contactée au début de ma thèse, juste pour un... J'étais même pas encore en thèse, je cherchais juste à... Je m'intéressais aux archives de Marie Cardinal, et je voulais juste faire un stage de recherche là-bas. Et donc je l'ai contactée, et en fait, c'est elle qui m'a proposé la co-tutelle. Donc moi, le projet s'est un peu imposé à moi, organiquement, mettons. Mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait envisager, comme Océane. Je sais pas si tu veux en parler, toi, de comment c'est fait pour toi... d'envisager une co-tutelle, mais j'imagine que c'était différent.
Bien, au début, je ne voulais pas faire de co-tutelle. Je freinais des quatre fers. Je suis très ancrée au Québec maintenant. Je suis là depuis... je suis dans ma sixième année. Et j'ai fait tout mon parcours universitaire, mis à part cette petite année perdue à l'université à Bruxelles. Du coup, c'est venu lors d'une rencontre avec d'autres étudiantes de ma directrice. Et j'ai compris qu'en fait, une co-tutelle, eh bien, ici, c'est un petit peu implicite. On ne le dit pas de façon assez explicite, en fait, il faut le savoir. Mais si on veut continuer dans le parcours universitaire, une co-tutelle, ça rajoute énormément, parce que ça rajoute une perspective internationale à notre recherche. Et du coup, je trouvais aussi que c'était très pertinent pour la recherche que je comptais entreprendre. Donc je me suis dit que j'allais commencer à regarder tout ça. Puis je confirme que c'est un dédale administratif assez intéressant. Fascinant.
Si vous nous écoutez, que vous êtes professeur et que vous êtes habilité à diriger des recherches, il y a une étudiante, Océane Corbin, qui est vraiment, vraiment très travailleuse et qui cherche en ce moment même.
À bon entendeur, à bon entendeur.
À bon entendeur. Oui, et puis moi, c'est ça qui m'intéresse dans notre parcours. En fait, avec Océane, on est légèrement différentes parce que moi, j'ai poursuivi en littérature, puis je ne suis pas sortie finalement de la littérature, même si, comme j'ai dit, je suis allée chercher un peu des séminaires qui m'intéressait, donc Marie Cardinal étant une autrice et étant sans cesse confrontée à son identité de femme auteur. Je vais jouer un peu avec ces termes-là d'autrice, femme auteur, autoriste parfois, mais en fait ça représente la même chose, c'est-à-dire une personne qui écrit et qui se genre autrement qu'au masculin, on va dire. Puis dans le cas d'une autrice, c'est vraiment genre en tant que femme. Puis donc moi je suis allée chercher ces outils-là en dehors de mon département, mais toi après ton bac t'as quand même fait le choix d'aller à l'UQAM, donc t'as changé d'université. En plus il faut savoir qu'il y a
une petite, peut-être pas une rivalité, j'avais pas jusque-là, mais disons que les deux universités sont en concurrence, donc c'était fort quand même de faire cette démarche-là. Puis t'es allé chercher quoi en fait dans ta maîtrise en communication? T'es allé chercher le numérique, mais je sais que ma question est orientée, mais t'es allé aussi chercher autre chose.
Oui, absolument. Donc à l'UQAM, c'est vrai que c'est assez connu pour être une université qui valorise les études féministes. Donc l'IREF, par exemple, l'Institut de recherche en études féministes, est basé aussi à l'UQAM, a été instauré à l'UQAM. Et donc elle est très connue pour accepter le genre de recherche qui serait qualifié comme militante dans d'autres secteurs, dans d'autres universités. Je savais que je voulais faire un mémoire qui avait une perspective féministe sur des groupes misogynes et sur les rapports entre genre et médias sociaux. Et je me doutais que c'était une recherche qui pouvait potentiellement intéresser l'UQAM, alors que dans d'autres universités, on aurait claqué la porte. Et j'avais raison, l'UQAM a bien apprécié ma proposition de recherche.
Est-ce que tu sais si à l'UDEM, y a des personnes qui, par exemple, t'auraient claqué la porte? Est-ce que t'as eu des échos, des bruits de couloir ou des choses qui t'ont aussi poussé à aller à l'UQAM? Est-ce qu'à l'UDEM, pendant ton baccalauréat, mettons, t'as oui dire parce que oui, la recherche, c'est aussi ça. Et quand on est étudiant, même au bac, même au premier cycle, on entend des choses.
Oui.
On est quand même très plongé là-dedans. Et qu'on le veuille ou non, les bruits de couloir ont une influence très forte, je trouve, sur nos carrières, parce qu'on peut être influencé, se dire que tel sujet ne conviendra pas à tel département, aller en chercher un autre, etc., dans l'échiquier académique.
Absolument. En fait, en un sens, c'est les bruits de couloir qui forgent le parcours plus qu'autre chose. C'est pas forcément les bruits de couloir, mais disons justement les codes implicites. Voilà. Et du coup, pour répondre à ta question qui était...
Ah oui, c'est savoir si t'en as, si en fait t'as eu des échos à l'Université de Montréal comme quoi ton sujet que tu voulais développer à la maîtrise, ou du moins l'idée que t'avais, mm-hmm. elle risquait un peu, pas de choquer, mais de...
Ah c'est oui, ok, oui.
Bien. Tu parlais justement d'une recherche qui flirte avec le militantisme et qui mm-hmm. ensuite genre, a été accueillie à l'UQAM, mais
Absolument.
Aurait été peut-être claqué la porte au nez dans d'autres universités, notamment
oui,
à l'UDM.
Oui, c'est genre. Ça. Bien déjà, je pense que j'avais été surprise par l'absence de corpus plus féministe en littérature durant mon bac. Après, évidemment, on parle d'un bac, donc il faut avoir un socle assez général. On ne peut pas aller dans des spécificités trop particulières parce qu'il faut un socle de connaissances, un tronc commun. Mais oui, j'ai été assez déçue. On n'avait aucune proposition, peut-être une en études de littérature anglaise, mais en tout cas en littérature française, je me suis vraiment sentie pas forcément entendu dans les perspectives que je voulais étudier. Et puis aussi, c'est ça, l'Université de Montréal, en général, ce n'est pas un élément que, en tout cas lorsque j'y étais en bac, qu'elle mettait en avant, les études féministes, du tout. Il y avait un certificat à l'époque en concentration, une mineure ou un micro-programme, enfin, l'équivalent de quelque chose d'assez petit, d'assez court. Et je voulais aller creuser un petit peu plus loin, puis c'était plus un sentiment. Puis j'avais fait un échange aussi dans une université à Londres pour ma dernière session de bac, où là j'avais dans mes essais une perspective un peu plus féministe, et puis là j'ai vraiment senti que ça passait pas. J'écrivais un essai sur la représentation de Jeanne d'Arc, et puis le correcteur m'avait dit « bon bah oui, la misogynie c'est mal, mais maintenant qu'est-ce que t'as à dire d'autre ?» Et du coup ça m'a un petit peu réveillée, où je me suis dit « mais c'est pas ce que je dis en fait, t'as mal lu ».
Et c'était à Londres ça ?
C'était à University College London.
Ah ouais.
C'était un autre monde. J'étais en littérature, du coup, européenne, qui est une très belle université, par ailleurs, avec de très bons profs, mais des correcteurs qui ont une perspective très différente.
Ouais.
Donc ça aussi, je me suis dit, ok, peut-être qu'il faut aller dans une université qui affiche aussi plus clairement ses couleurs. Puis ça, l'UQAM le fait très bien.
Bah, c'est vrai qu'on a un autre point commun en fait, auquel j'avais pas du tout pensé, mais dans cette optique en fait, des études féministes et du genre qu'on va définir par la suite, ne vous en faites pas si vous êtes déjà perdu. Mais j'ai aussi fait ma troisième année de bac, donc ma troisième année de licence pour nos amis francophones non québécois. Je suis en soi partie chercher, je sais pas, un double diplôme, je crois à l'époque c'était ça qui m'avait motivée, mais à l'université du Kent en Angleterre. Puis c'est là où j'ai découvert Marie Cardinal pour la première fois. Puis ça, faut quand même que je le souligne, Marie Cardinal dans les études littéraires francophones n'apparaît pas ou très peu, alors que dans les études anglophones, elle est, enfin, y a quand même plus de ressources. Donc moi, je l'ai découvert dans un séminaire sur justement le rapport mère-fille dans la littérature du XXe. Et rien que dans l'intitulé du séminaire, on voit à quel point c'était axé sur le genre, qu'on avait une perspective féministe aussi avec les représentations de ce lien si mystifié en fait par le regard masculin et qui prend une autre teinte, mettons, quand on de la perspective féminine avec cette idée de filiation. Et moi, c'est à l'étranger, dans les études anglophones, que j'ai découvert Marie Cardinal et sous un angle féministe, contrairement à toi où ton correcteur apparemment était assez, mettons, conservateur.
Traditionnel, exactement.
Ouais, moi, j'ai eu cette belle chance à l'université du Kent d'avoir au contraire des séminaires qui m'ont ouvert un peu les yeux sur d'autres enjeux qu'on pouvait faire, toujours dans le domaine littéraire. Puis ça a vraiment nourri ma recherche. Je travaille toujours sur Marie Cardinal. Ça, c'était en 2017. On est en 2024, toujours.
Bientôt 25.
Et c'est ça, Marie Cardinal. Un grand amour. Mais c'est ça, et bah, pour rebondir là-dessus, moi, je parle d'études féministes en littérature, mais on pourra en reparler, mais ça a peut-être une autre teinte que toi, les études féministes en communication. Parce que c'est quand même ton domaine de recherche, c'est ça qui t'intéresse, puis c'est ça ta recherche aussi, en travaillant sur les discours, dans les médias, sur le numérique, etc. Peut-être aller clarifier pour nos auditrices ce que ça donne pour toi, les études féministes en communication, c'est un peu quoi ?
Les études féministes en communication, c'est... Mais pour moi, je pense qu'aussi c'est un petit peu différent, parce que les études féministes, ça peut être un outil, une perspective, une posture. Donc ça prend la forme un peu de la recherche qu'on entreprend. Puis pour moi, c'est de prendre en compte les dynamiques de pouvoir et les dynamiques de discrimination de genre qui prennent place en ligne, en fait, comme elles prennent place hors ligne. En ligne, c'est le monde réel, c'est pas le reflet du monde, c'est pas une extension, ça reste juste la réalité. Et il s'avère que les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de genre et de discrimination et de violence se produisent également en ligne, mais vu que le monde en ligne est en effet un peu différent que le monde en ligne, ça prend des formes différentes. Les plateformes permettent un autre type de violence, un autre type de misogynie, de sexisme, et puis c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Donc je pense que les études féministes en communication, c'est beaucoup ça, c'est voir en quoi les plateformes, les vecteurs de communication, ça peut être les podcasts aussi par exemple, ça peut être la radio, ça peut être le journalisme, comment est-ce que ces vecteurs-là ou ces plateformes-là permettent peut-être aussi une émancipation de la parole des femmes et des minorités, ou alors permettent justement une discrimination encore plus grande ou encore plus de violence, une visibilisation de cette violence.
Tu parles de minorité, je pense que tu parles de minorité de genre.
Oui, pardon.
Peut-être d'autres minorités.
Oui, non, minorités de genre, ou les personnes plutôt minorisées, parce que c'est pas vraiment des minorités, mais qui sont minorisées par les effets d'oppression. Mais oui, on a énormément d'intersections d'oppression à ce niveau-là, donc tout le monde en prend son grade en réalité, en ligne comme en ligne.
Non, mais c'est... Mais en soi, on retrouve ces enjeux-là un peu aussi en littérature, parce que comme... des plateformes numériques, mettons, l'espace littéraire est un espace qui se plaît bien aux enjeux du genre, dans le sens où on peut reconfigurer à loisir les codes du féminin et du masculin et jouer sur ces codes afin de montrer une autre, enfin, soit de calquer carrément le modèle patriarcal dans la littérature, donc en soi un calque parfait, soit au contraire d'aller chercher d'autres configurations, reconfigurations, et de jouer avec ça, de jouer avec nos imaginaires. Et les études féministes en littérature, on parlera du genre après de manière plus détaillée, mais pour les études féministes en littérature, il y a deux enjeux qui sont un peu différents, mettons, de toi. Le premier, c'est un enjeu épistémologique, Bon, alors c'est un grand mot, mais en soi c'est pour dire qu'on cherche, qu'on interroge des savoirs et qu'on reconsidère les savoirs à la perspective actuelle ou contemporaine ou avec d'autres outils, mettons. Donc par exemple, dans mon cas, c'est l'histoire littéraire telle qu'elle nous est contée, parce que c'est quand même une histoire, c'est un peu un mot polysémique, mais j'aime bien. C'est-à-dire qu'on a l'histoire, donc les faits datés, et dans notre cas, les mouvements littéraires, la genèse des mouvements littéraires. Donc vous avez tous et toutes plus ou moins touché, je pense, dans votre cursus, à un parcours d'histoire littéraire, même au primaire. Et en soi, donc il y a cet aspect historique, mais il y a aussi cet aspect plutôt de l'histoire qu'on se raconte. Donc ça va de l'histoire littéraire nationale, avec le canon littéraire aussi, ce qui est considéré comme littéraire ou non. Et en soi, considérer les études féministes dans le secteur de la littérature, c'est aussi considérer les femmes comme objet d'étude, en se disant bah, quelle est leur place au sein de ces corpus. Gros, je vais vous divulgâcher un peu le truc, je vole le punch, mais leur place est très très minoritaire. C'est-à-dire que dans les histoires littéraires, on a vu très peu de femmes. Puis ça, c'est sourcé, hein. Je dis pas juste, je parle pas à travers mon chapeau. En soi, quand je parle de la place des femmes en littérature, je fais une référence très très explicite pour qui est spécialiste, mais à Christine Planté et à ses travaux sur l'histoire littéraire et sur la place des femmes dans cette histoire. Elle est 19e, mais justement, elle a dirigé aussi les travaux de Audrey Lasserre, qui est une autre chercheuse et qui a travaillé sur ces questions, mais sur le 20e siècle, et en montrant justement que, étonnamment, au 20e siècle, et moi aussi j'étais la première étonnée de ses résultats de recherche, que quand on est dans, au XXe siècle, on s'imagine c'est proche de nous, les femmes, il y a les mouvements féministes de la deuxième vague, de la première vague, voire même le début de la troisième vague, on se dit ben, des femmes, il y en a, c'est plus en mystère, on n'est plus dans des logiques patriarcales, etc. Et en fait, ben non. Ces résultats de recherche tombent quand même comme un, pas un glas, mais disons comme un questionnement, pourquoi il y a si peu de femmes finalement dans nos histoires littéraires. Puis moi j'enseigne la littérature, et comme tu dis, ça a vraiment une importance. C'est-à-dire que dans nos corpus, on est censé varier les genres, les époques, faire attention à ça. Bah, moi, la première chose, mon premier réflexe, ça a été je veux qu'il y ait des femmes dans mon corpus. Mmh. Voilà. Et des personnes issues de la minorité de genre, mais malheureusement, ça ne matche pas avec les... Pardon, ça ne correspond pas, pardon pour l'anglicisme, mais ça ne correspond pas avec les directives de mon département à l'UDEM, parce que ouais. J'enseigne à l'UDEM, puis c'était trop rigide pour rentrer des personnes qui questionnaient la binarité, qui s'identifiaient elles-mêmes comme des personnes sur le prisme du genre, ça ne marchait pas pour différentes raisons, voilà. Mais c'est ça un peu moi qui me questionne, et tu sais, genre, c'était pour ça aussi que je voulais t'interroger aujourd'hui, mm-hmm. C'était parce que j'ai l'impression que quand on est... sur ces questions-là, donc les études féministes ou les études de genre, parfois, il y a comme un soupçon que notre recherche, elle perd en scientificité parce qu'elle s'intéresse à des choses, en fait plutôt à des êtres humains, mais qui ont été pendant des siècles peu considérés, dont la voix a été, on va le dire, carrément silenciée. Puis dont on a du mal à se dire bah, finalement, tu sais, avec de gros préjugés là, mais on va y aller avec des... Je sais que les réalités sont beaucoup plus fines que ça, mais en soi, on s'étonne un peu de la pertinence. Bah, les femmes, vous avez des jobs maintenant, vous avez un salaire, vous pouvez avoir le divorce, vous avez des droits. Puis un peu cette rhétorique antiféministe de dire, et maintenant quoi ?
Oui.
Vous voulez quoi encore ? Mm-hmm. Alors qu'on est loin d'une égalité et même d'une équivalence réelle. C'est ça, donc en soi, face à ce risque, c'est pour ça aussi que notre émission s'appelle comme ça, face à ce risque en fait d'un manque de scientificité pardon, dû à cette ligne très fine entre recherche et militantisme, entre savoir scientifique et posture un peu contestataire finalement. En soi, moi ce qui m'intéresse c'est aussi notre choix commun à toutes les deux. D'être venue s'exiler un peu au Québec, enfin l'exil est un peu fort, mais en fait je parle en connaissance de cause de nos situations personnelles, puis ça fait vraiment exil. Mais dans le cadre de nos recherches, c'est vrai que c'est pas un exil, mais c'est vraiment un choix délibéré de venir au Québec. Ça représente quoi pour toi ce choix ? Est-ce que Au Québec, tu as l'impression que tu as plus d'infrastructures. Tu sais, c'est juste une impression. Là, je dis pas que le Québec est meilleur que la France ou pire. Mais c'est vrai que ça nous interroge parce que toutes les deux, on a découvert un peu nos sujets de recherche à l'étranger et pas en France et pas en Belgique pour toi. Et qu'on a poursuivi avec ce choix-là. Et même si les enjeux de la co-tutelle sont ce qu'ils sont, justement, ça nous permet de nous interroger, de comprendre cette dimension transatlantique et de voir un peu des similitudes et potentiellement des différences. Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
Bien, déjà, j'ai l'impression qu'ici, la recherche, on est dans un pays très libéral. Donc, il y a plus de financement, mais c'est aussi plus risqué. Il y a un rapport un petit peu client avec les universités. Donc, c'est un système extrêmement différent. Ce qui permet, bon, ça a des avantages et des inconvénients, hein, mais ça permet aussi de pouvoir un petit peu faire ce qu'on veut tant qu'on trouve du financement. Et il y en a plus qu'en France et qu'en Belgique, d'après ce que j'ai pu voir. Bien que je ne sois pas encore familière avec le système français. Mais oui, non, je pense qu'ici, ils sont très inspirés des études anglophones, des cultural studies des États-Unis. Il y a moins cette hiérarchie des savoirs. Bon, elle est quand même présente, on s'entend, mais elle est moindre. Et ça fait du bien, parce que je pense que mes recherches n'auraient peut-être pas été prises au sérieux dans un contexte francophone européen. Et elles auraient été catégorisées de militantes. Il y a vraiment une scission, j'ai l'impression, épistémologique, du coup, en Europe, où dès qu'on va avoir une perspective qui va être un petit peu plus socio-constructiviste, un petit peu plus féministe, ou alors qui va justement prendre en compte des enjeux de pouvoir un peu plus critiques même, on va directement être qualifié de fraude à la science, pour directement aller dans les extrêmes. Mais je me suis bien rendu compte qu'en fait, tout le monde milite pour sa propre science en réalité. Tout le monde milite pour sa propre école, et les professeurs français, françaises avec qui j'ai pu échanger, militaient pour leur propre façon de voir les choses également. Donc en soi, on est toutes et tous militantes de notre école et de notre mode de pensée. Donc la recherche militante, c'est un petit peu la même chose, le même mot.
Ouais, un mythe comme... Enfin, ouais. En soi, qu'est-ce qui peut être considéré comme militant, surtout dans un contexte académique ou même en France, où c'est vrai que moi, dans les études littéraires, il y a quand même une sorte de conservatisme qui se fait sentir, c'est-à-dire que ben ça c'est sourcé aussi, là je me repose sur les travaux de Christine Delphi pour le moment, puis c'est vraiment, elle a pu observer, donc Christine Delphi qui est à la fois une militante réelle, genre elle a milité pour le MLF, etc., c'est une personne qui a beaucoup vécu, et dans son travail académique, elle, donc au milieu des années 2010, elle souligne qu'en soi, en France particulièrement, et dans la littérature encore plus, donc déjà en France, contexte culturel, ensuite dans la littérature, le genre et les études féministes ont eu du mal à prendre racine, mettons. On a souvent un peu résisté, d'après elle, à ce genre de théorie, tout simplement parce qu'elle, elle en fait carrément une exception culturelle, et elle parle justement de la posture universaliste en France. Donc juste pour quand même m'attarder un peu là-dessus, c'est simplement, si j'ai bien compris Christine Delphi, aussi toujours, mais c'est la posture de dire qu'en France, on a hérité en fait du mouvement universaliste, donc les Lumières, sujet universel, l'idée un peu que quand on se pense en tant que sujet et qu'on a accès à la raison, bah, ça vaut un peu pour le monde entier, c'est-à-dire que la raison c'est un concept qui vaut pour toi et moi, pour, mais tu sais, genre, malgré le fait que tu sois belge, genre, je suis française, mais c'est pas grave, genre, tant que t'as accès à la raison et tant qu'on arrive à raisonner ensemble, voilà, donc il y a un côté très aussi englobant, mais qui a beaucoup d'avantages, bien évidemment, mais le désavantage majeur, c'est de pas, en fait, de poser le masculin comme neutre et comme référent, sujet universel, en fait, on parle vraiment de sujet universel. On parle pas de sujette, on n'a pas d'autres termes. Genre, sujette, c'est un terme québécois que j'ai trouvé sous la plume de Louis Bersiani. Et j'aime beaucoup ce terme, mais parce que ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on pense le sujet comme étant masculin. Et là-dedans, eh ben, c'est vrai que quand on pense que ça vaut pour tout le monde, surtout en plus quand on fait des études décoloniales ou postcoloniales, sujet masculin blanc. Mmh. Et donc quand on pense à partir de ce référentiel-là, on a du mal à admettre que les femmes, ou d'autres minorités, ou d'autres communautés minorisées, mettons, n'intègrent pas ce sujet rationnel, ou en tout cas au prix de, comme une adoption des valeurs du masculin, mettons. Et ça, ça paraît très complotiste, très ce que je dis, je sais que ça peut choquer, mettons, mais en soi, c'est des choses qu'en littérature, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'il faut quand même, moi je le constate dans les archives, Marie Cardinal, le motif d'un non-savoir écrire, d'une incompétence littéraire, il est constant. Et ça, il y a d'autres sources qui le disent, etc. C'est pas que juste Marie Cardinal qui a du mal, en fait, dans sa posture d'imposteuse à avoir une figure auctoriale ancrée. C'est apparemment commun à toutes les femmes et personnes sur le prisme du genre qui ne se reconnaissent pas dans les références culturelles, littéraires, voilà, et qui, du coup, ont du mal, encore plus en France, à prendre la plume et à écrire. Mmh. Puis le fait que ce soit dans nos académies qui est une résistance, en France particulièrement, montre la posture francophone du Québec très intéressante, parce qu'au Québec, on a un lien avec la France, il y a un lien avec la France de l'ordre du colonial, mmh. Puis en même temps, on a cette francophonie qu'ils essaient vraiment de garder, qui fait partie de leur identité. Je vous apprends rien si vous pensez que le Québec n'est pas francophone. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais au moins, vous aurez appris quelque chose.
Absolument.
Et donc, vraiment comme une communauté francophone, donc qui tient à cette francophonie, c'est leur essence, c'est cette langue française. Et en même temps, en rejet ou en distance par rapport à la culture française qui a longtemps été la culture de référence. Et qui est encore la culture de référence à l'UDEM, en littérature. Littérature de langue française, la part de nos corpus sont vraiment centrés sur la France, même si, et je le souligne quand même, parce que j'ai fait les portes ouvertes de l'UDM, donc il faut quand même que je prêche ma chapelle. Quand même.
Absolument.
Mais même si à l'UDM, dans le département de littérature de langue française, on a aussi tout un pan francophonie,
oui,
et donc
absolument.
Avec des corpus qui interrogent d'autres littératures que celle du Québec et que celle de la France. Mais on peut quand même voir que, vu que nos professeurs sont quand même pour la plupart inspirés ou en tout cas de traditions de langue française, etc. Il y a quand même le canon littéraire qui est là, tu vois, qui se fait sentir.
Ouais.
Puis je suis plus à l'aise au Québec quand même de parler de ça que quand je suis en France. Et quand j'ai amené ça dans ma recherche, juste en fait en lisant Christine Delphi puis d'autres pour mon étude critique, mettons, je me suis fait quand même un peu taper sur les doigts en me disant faudrait faire attention parce que tu fais de la recherche. Et faut pas confondre posture militante et posture de chercheuse, ça a rien à voir. Donc oui, en France, tu peux dire qu'il y a une résistance, mais en soi, faut vraiment le situer. Puis c'est pour ça que j'ai dit début des années 2010, etc. Christine Delphi, je prends quand même des pincettes, mais parce que ces pincettes là, c'est ce qu'on m'a dit de faire aussi dans ma recherche. Puis je pense que c'est pertinent aussi de l'adresser, dans le sens où oui, il faut forcément historiciser ça, ça bouge. Maintenant, on a des départements d'études féministes. Il y a le collectif des jaseuses qui malheureusement va se fermer, mais qui sont un collectif de chercheuses en France. Il y a aussi plein de nouvelles chercheuses qui adressent ce genre de problématiques-là. Et c'est vrai qu'au Québec, on a, me semble, l'avantage d'être à la fois en contact avec la culture anglophone, universitaire,
oui.
Et en même temps avec cette langue française et ces études en langue française qui nous permettent aussi d'avoir une traduction en fait, simplement de ces écrits-là, beaucoup plus simple. Tout le monde est bilingue presque et on arrive quand même à.
Oui, on a les sources des deux cultures, voire davantage de cultures encore et de contextes socioculturels, et c'est une grande force que je n'ai pas forcément retrouvée ailleurs. Je pense que c'est vraiment la force des universités québécoises à ce niveau-là, c'est cette liberté intellectuelle qui est due justement à ce positionnement géographique en fait, qui permet l'absorption de cultures externes. C'est très intéressant.
Il y a aussi historiquement parlant le fait que leurs institutions sont plus récentes,
ouais, aussi,
comme l'Académie des Lettres, et du coup dès la constitution de l'Académie au Québec, il y avait des femmes.
Voilà. Ça change beaucoup.
Ça change beaucoup, sachant que la première femme à l'Académie française, me semble, c'est Marguerite Yourcenar, puis ça date de 91.
Ah, waouh.
Je crois. Je suis pas sûre de ma date, mais comme on est vraiment. Ça se google, ça, mais on est vraiment loin, là.
Oui, absolument. Il y a une vraie différence.
C'était pas des fondatrices de l'Académie française. Après, ça se comprend aussi. L'Académie française a été fondée il y a quand même plusieurs siècles. Donc, on n'était pas avec les mêmes, on partait pas avec les mêmes difficultés, mettons, mais ni avec la même mentalité, c'est vrai. Je ne fais pas d'anachronisme, mais quand même, il y a une certaine
Une tradition en fait,
ouais.
Une tradition française très forte.
Puis est-ce que, bah, pour conclure, on peut s'attarder juste sur notre dernier point. C'était plutôt genre, par rapport au genre. Bah, déjà, on ne l'a pas défini. Est-ce que tu voudrais proposer une définition? Sinon, moi, j'en ai une pour les études littéraires. Mais,
Je pense que la définition du genre en études de communication serait la même en études littéraires, vu qu'on se base sur les mêmes corpus. Donc, sens-toi libre de partager celle que tu as.
Oui, bah, je me permets de lire. Du coup, là, c'est Christine Planté, et dans un ouvrage de 2021, masculin, féminin en littérature, les reconfigurations du genre. Je crois que le titre est inexact, par contre, il faudra que je le refasse, mais en soi, c'est au singulier, la notion vise la description critique d'un système binaire, féminin, masculin, et c'est relationnel, c'est-à-dire que le féminin slash masculin, il y a une relation entre les deux, je le souligne, et hiérarchique. Le masculin est réputé l'emporter sur le féminin, qui se trouve au fondement de nos sociétés et de nos cultures, et résulte d'une construction historique, culturelle et langagère en constante évolution. J'aime beaucoup cette belle définition.
Ouais.
Parce qu'à la fois, on a les dynamiques de pouvoir, hiérarchique, relationnel, voilà. Et en même temps, on a la liberté de penser le genre en dehors de la binarité.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, avec ces rapports entre le masculin et le féminin, et moi, j'aime bien penser le genre comme un spectre, parce que même chez Marie Carzmal, parfois, il y a comme l'envie d'un yel.
C'est intéressant, ça.
Parce qu'elle parle du féminin.
Ouais.
À d'autres moments, elle en parle beaucoup, le corps, la vulve, la sexualité, c'est sans tabou. En plus, si vous n'avez pas lu du Marie Cardinal, allez en lire, c'est très très beau. Il y a vraiment une poétique de la langue, tu sais, elle veut vraiment, elle travaille le langage, elle aime ça le langage, elle veut vraiment l'ouvrir, le rendre accessible, etc. Et en même temps, parfois, elle va passer par le masculin pour le faire. Donc, t'as des enjeux de croisement de regard. On passe du corps féminin à une transsexualité littéraire. Ça, c'est une notion que j'ai croisée dans mes lectures. Puis vraiment, dans Le passé en piété, la narratrice prend la place de son père.
Comme, okay.
Et elle sent pousser sa moustache. Elle sent sa voix, son larynx, s'approfondir.
Ouais.
Mais c'est pas le terme. Mais elle sent sa voix s'aggraver, qu'elle a plus aussi d'aisance. Tu sais, genre un peu cette
dans
question
la façon
aujourd'hui je suis un homme, ça me permet de faire des choses. Et j'aime bien ce fait de questionner cet imaginaire là, d'aller chercher le masculin pour repenser le rapport au féminin aussi.
Ouais, absolument. C'est une façon justement de les remettre en question tout en évitant de les nier, ces performances là de genre. Donc c'est très intéressant.
Et je trouve que c'est ça aussi l'apport de cette perspective transatlantique, c'est qu'on peut faire, tu vois, moi, toutes mes références critiques là que j'ai amenées, Christine Delphi, Christine Planté, Audrey Lasserre, Aurore Turbio aussi, que je salue vraiment chaleureusement, elles ont, par leurs travaux, elles sont toutes francophones, elles sont, je pense, si je ne me trompe pas, toutes françaises, et pourtant elles interrogent, elles sont au courant de ce qui se passe transatlantique, et elles interrogent leur corpus avec cette perspective-là. Donc en soi, quand ça fonctionne, les échanges transatlantiques entre le Québec, mais aussi le monde anglophone et la France, ben, ça nous permet d'ouvrir nos perspectives. Quand même. On n'est pas juste enfermé sur cette posture un peu universaliste, un peu datée, mais qui pèse encore. C'est comme...
Qui est très présente, en fait.
Une sorte de couverte dont tu aurais du mal à te dévêtir à un moment.
Absolument, oui.
Ouais. Puis toi, est-ce que tu vois ça, toi, aussi, dans tes recherches? Est-ce que tu t'es heurtée un peu à...
À ce point de vue, cette neutralité présentée comme étant objective?
Ouais, c'est ça, cette neutralité qu'on cherche toujours en recherche.
Oui, ben, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que, dès que c'est mon département, je suis aussi dans ma petite bulle, dans ma chambre d'écho, comme on dit, je n'ai pas encore rencontré de personnes qui remettaient en question le fait que l'objectivité est un mythe. Et en réalité, pour être... objectif, il faut être le plus subjectif possible, être le plus transparente sur sa subjectivité. J'ai l'impression que c'est un point de vue qui, en tout cas à l'UQAM, est largement adopté, défendu, en tout cas dans le département de communication et plus généralement dans les sciences humaines et sociales. Mais je ne doute pas que la réalité est bien différente en dehors de mes départements et de mes espaces. Et je pense que c'est une question en fait où j'ai l'impression que ça va à deux vitesses, que certains départements, certaines institutions l'ont bien compris. C'est c'est quelque chose de presque évident, même si on le répète constamment. Et pour d'autres, c'est une aberration. Donc on est vraiment, c'est ça, à totalement deux vitesses, deux écoles. Et ça paraît des fois un petit peu ahurissant de devoir réexpliquer ce principe qui, en fait, me paraît évident, mais qui, pour d'autres, ça devient un affront aux méthodologies scientifiques en général.
Oui, tout à fait. Et un bel exemple de ça, c'est à quelle personne tu écris ta thèse. Est-ce que tu emploies le « nous » de majesté, le « nous » aussi scientifique, en France très utilisé encore, quand même, cette posture du « nous », que j'utilise même parfois par réflexe. Mais personnellement, et là je vais peut-être choquer, mais dans ma thèse j'utilise le je.
C'est très moderne, attention. Attention, tu vas vite.
Je sais, mais ça a été validé par ma direction, etc. Oui. C'est encore en discussion quand même, parce que moi j'ai une petite réserve par rapport à ça, mais ça donne une autre teinte aussi à ta recherche. Moi je travaille sur un objet de recherche dont tout le monde ignore allègrement les tenants et les aboutissants, parce que Marie-Cardinale, elle est connue, hein.
Je n'en doute pas. Oui, je la connais grâce à toi.
Connue,
oui,
je ne dis pas qu'elle n'est pas connue, mais c'est juste que de notre point de vue contemporain et de notre génération, même si on est un peu avec un écart d'âge, de notre génération, Marie-Cardinale, elle n'est pas passée du tout à la postérité. J'ai du mal à la retrouver dans des ressources. Et donc, quand j'en parle dans ma thèse, forcément que le jeu, il a une puissance aussi, parce que vu que je parle sur un sujet où peu de gens ont écrit, je me place.
Est-ce que pour toi, c'est un acte militant d'utiliser le jeu dans la thèse?
Un peu, peut-être. Okay. Mais c'est toujours une source de joie. C'est-à-dire que ça fait partie... je pense que ce sera notre conclusion, parce que le temps file. Mais c'est une source de joie, quand même, d'avoir cet apport du genre et des études féministes dans nos recherches, parce que ça nous permet de toujours remettre en question nos savoirs, d'avoir un petit grain de sel là, qui vient te stimuler aussi. Ouais. C'est hyper inspirant de voir des trous et de se dire, j'ai peut-être en comblé un.
Oui, absolument. Qu'est-ce que la science, c'est pas une remise en question constante, en fait.
Ah non, ouais, non, pas. Mais juste parfois, tu vois, moi, quand j'ai vu Marie-Cardinale, quand je l'ai découvert, quand je l'ai lu, quand j'ai rencontré sa fille, Alice Ronfard, que je salue également, dis donc j'ai salué beaucoup. Mais ça m'a fait un petit choc, parce que je me suis dit, ah, mais en fait, ça a un impact sur des personnes, même si c'est de la littérature, ça a une influence direct. Je travaille dans les archives, mais c'est quand même, tu sais, c'est du concret, hein. Et de pouvoir réhabiliter à ma manière, à mon échelle, une autrice qui pour moi est d'envergure, c'est, voilà, puis c'est pas que pour moi, en fait, ça, la beauté du jeu aussi, c'est que moi je le pense, mais je le démontre, puis je m'appuie sur mes collègues qui ont déjà travaillé là-dessus, qui citent parfois Marie-Cardinale, qui ont déjà déblayé le chemin, tu vois.
Oui, absolument, oui.
Donc c'est ça, une belle question pour Océane. Va-t-elle oser le jeu ?
Eh bien, on se retrouve pour le dépôt final de mon mémoire qui a lieu bientôt, si j'ose dire. Et la thèse, on se reparle dans 3 ans et demi, 4 ans et demi, dépendamment. Oula, oui, ça va vite, ça va vite. Le temps passe. On n'en parle pas, on est dans le déni.
On n'en parle pas. Mais voilà, on restera sur cette joie du militantisme, si tu veux juste... faire un petit mot là-dessus, genre, est-ce que pour toi ton militantisme, en tout cas en recherche, est une joie?
Je pense que déjà j'aurais du mal à m'auto-qualifier de militante, parce que j'aurais l'impression un petit peu d'avoir peut-être un sentiment d'imposteur, dans cette posture-là. Mais en tout cas, ma recherche sur les violences me donne... Je n'ai que le mot en anglais, je m'excuse profondément.
Vas-y, c'est pas grave.
Du purpose. Comme un objectif. Absolument, c'est ça. C'est une énergie, c'est un moteur constant. Donc un moteur qui est parfois pas le plus sain, parce que ça peut être de la colère, ça peut être... c'est ça, un ras-le-bol, en fait, des injustices et des violences que je peux voir en ligne. Mais en tout cas, c'est un moteur qui est très puissant. Et ça, oui, ça peut être très... pas réconfortant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je me sens moins inutile face à ce que je peux voir.
Ouais. Il y a une certaine agentivité, hein, quand même. Oui. Quand on travaille sur avec les études féministes, avec le genre, on reprend un peu aussi cette capacité d'agir, en fait.
Oui, c'est ça.
On se considère soi-même comme un sujet agissant, pas simplement passif. Comme quand on ouvre nos bouquins de littérature et qu'on se rend compte que
absolument.
Si peu de femmes.
Absolument.
Merci beaucoup, Océane. Ça m'a fait très plaisir de faire cette émission avec toi. Merci à Radio Campus et à l'UMR ITR de nous avoir permis cet espace de discussion.
Merci à toi Cassie pour l'invitation, puis hâte de visiter le système académique français, si la cotutelle fonctionne.
On l'espère.
On l'espère. Merci.